Chapitre 7. 25 mai 1916. Pendant ces nouveaux mois de monotonie extérieure, mais si agités moralement par la lutte de Verdun, je n'ai rien noté. Christian et mon père ont été dans cette fournaise. Ils s'en sont sortis sans blessure, et quand nous les avons revus, leurs récits imagés nous ont tenus palpitantes. Rémi est dans le nord et Olga gémit souvent. Pauvres jeunes femmes, mes angoisses pour ceux que j'aime me font comprendre leurs tourments. Olga a perdu son bel entrain du début et, après chaque permission, trouve plus pénible la séparation. Laconiquement, Christian m'envoie des pensées auxquelles il me somme de répondre. « Il n'est pas toujours de force, m'écrit-il, à répondre aux attaques que produit l'exaspération de la souffrance. Beaucoup d'irréligieux, dans cette guerre, puiseront des arguments pour soutenir leurs idées. L'un d'eux me disait hier, « C'est la faillite du christianisme. L'Allemagne est chrétienne et voyez ce qu'elle a fait. » Au fond, Christian veut que je parle et je crois bon de me prêter à ce jeu. La plus petite graine produit son fruit. À une nouvelle lettre, j'ai répondu « Tu ne connais pas, je crois, une définition que j'aime infiniment. Elle est de Madame de Duras. » « Et mes dieux, dit-elle, c'est adorer à leur source les perfections que nous espérions trouver dans les créatures et que nous y avons vainement cherchées. C'est donc au-dessus des catastrophes voulues par l'homme qu'il faut chercher et se reposer. Pourquoi la méchanceté de l'Allemagne indiquerait-elle la faillite du christianisme ? Elle est simplement l'indice d'un esprit et d'un cœur faussés que la religion, drapée à leur façon, aide encore à se leurrer. Tu me diras, au sujet de Madame de Duras, que sa définition est la paraphrase d'une pensée vieille comme le monde. Mais quelle pensée n'est pas vieille comme le monde ? Elle me suffit à moi, simple, pour argumenter. Je m'enfonce en elle, je la creuse, elle me conduit par mille petits sentiers sous les ombrages que j'aime. J'y trouve le repos et la sécurité. Vous suivez les grandes routes droites, vous, hommes, qui n'avez pas le temps de vous arrêter devant une beauté cachée sous les broutilles ou voilée par le brouillard. Mais nous, chers Christian, nous avons de longs loisirs pour ascensionner, j'invente un verbe, nos pensées et nos sentiments. Jamais, par ces temps d'affreux cataclysmes, je n'ai mieux compris notre rôle d'effacé. Tu me diras, alors on ratiocine, ce que je déteste. Mais non, sans effort, on se laisse porter vers le bien par l'Évangile. Ces pages divines ouvrent, aux yeux attentifs, les portes les plus cachées. Comme toi, je déteste le ratiocinage, mais j'aime la belle ou fine broderie. C'est mon goût de femme. J'aurais continué ainsi indéfiniment, tant j'ai plaisir à causer avec ce jeune esprit dont la sympathie est si complète. Il m'a répondu, tambour battant, « Pauvre dame Cendrillon, crois-tu que toutes les femmes te ressemblent ? Ta bonne nature a rempli d'illusions ton esprit. Avec tes bons yeux calmes et ton front tranquille, tu es l'image de la femme que tout homme intelligent voudrait à son foyer. Quelle idée, Marguerite, d'avoir refusé de fonder une famille ! Tu ne serais plus à nous, c'est vrai, mais je ne suis pas égoïste dans mon affection pour toi. » J'ai souvent ragé des compliments adressés à Olga pendant qu'on te disait insignifiante. Je n'affirme pas que tu sois positivement jolie, mais ta taille, grande moyenne, la plus charmante à mon goût pour une femme, est parfaite, et si ton visage manque de beauté, il y a chez toi quelque chose qui... enfin, quelque chose qui me plaît. À propos d'Olga, j'aurai peut-être à t'écrire des choses ennuyeuses à son sujet. Lorsque je ne suis pas dans le mouvement perpétuel, tes lettres me distraient et me font réfléchir. J'ai servi certaines de tes phrases à l'adversaire dont je te parlais. Elles ont mis le feu aux poudres et nous avons discuté, non sans profit, je m'en flatte. Écris-moi. Je lui répondis. Toutes les femmes ne se ressemblent pas, évidemment, et beaucoup s'en tiennent au nécessaire. Motif impérieux pour celles qui réfléchissent de vivre dans les chemins de Dieu. À ta remarque impertinente sur mes illusions prétendues, je réponds par une pensée de Joubert. Toute illusion renferme une part de vérité. Cher Christian, il m'a envoyé des choses trop flatteuses pour que je les transcrive dans ce cahier. Je les lui ai reprochées et il s'est empressé de me battre avec le propre mot de Joubert. Nous pourrions continuer indéfiniment ces aimables causeries où le badinage tempère le sérieux. Mais, après un temps de repos, le voilà parti dans le feu. Adieu la réflexion. 25 juin 1916. Quand j'ai questionné Christian sur son allusion à Olga, il m'a répondu qu'il s'était trompé et je n'en sais pas plus long. Berthe Ravel m'envoie de nouveaux récits qui m'initient à l'existence de Jean et, de loin, me font entrer dans cette ambiance de souffrance et de générosité. Jean raconte des traits accomplis avec une simplicité magnifique et que j'aime d'autant plus qu'ils sont plus cachés. Nous sommes dans le secteur de S, qui, sans être très agité, ignore le repos complet. Il y a quelques semaines, nous occupions une position défavorable. Alors que, partout ailleurs, l'Aisne séparait les lignes à l'endroit où nous étions, la rivière décrit une boucle profonde, nous avions l'eau à dos, nos tranchées formant la corde de Narc. Dans la nuit, fusillades et mitrailleuses crépitaient et les balles perdues, très loin en arrière, chuchotaient sans arrêt. J'avais installé mon poste de secours dans l'ancien couvent de Saint-Médard, bâtiment curieux, aux murs énormes, sur lesquels les obus de petit calibre claquaient sans pénétrer. Cependant, les 150 ayant réussi à faire des brèches, le vent de la nuit sifflait lugubrement dans les immenses couloirs. En cas de bombardement, une chapelle souterraine, soutenue par des arcs-boutants en pierre, devait servir de poste de secours. Les boyaux des premières lignes partaient de la cour Saint-Médard pour aller, après 500 ou 600 mètres de sinuosité, à la tranchée avancée. Le luxe remplaçait la solidité de nos tranchées. Au tournant d'un boyau, des glaces, qui provenaient des maisons démolies de S et des villas de la banlieue, reflétaient tout à coup nos images boueuses. Au-dessus d'une guitoune, d'où s'échappaient des chansons qu'on ne pouvait confondre avec des cantiques, un vieux saint de bois sculpté, qui eût ravi un antiquaire, levait la main pour bénir. Au fronton d'un abri, un buste de Napoléon III. Plus loin, des inscriptions facétieuses. Les objets de luxe et la gaieté remplaçaient les abris solides, car les tranchées étaient étroites, croulantes, et les parapets, garnis avec des sacs d'engrais chimiques, offraient aux obus une médiocre résistance. Entre les boches et nous, un marais, ou plutôt un terrain marécageux, où poussait une flore particulière, le fil de fer barbelé, depuis celui qu'on plante avec des piquets, jusqu'à celui qu'on visse avec des barres de fer en tire-bouchon. Moyen de défense très inefficace, car l'Allemand, de ses collines très rapprochées, voyait sur nous. Nous avions donc poussé de place en place des petits postes où quelques soldats surveillaient jour et nuit. Un de ces postes, particulièrement utile, était situé dans un petit boyau dont il ne restait plus d'ailleurs que quelques lignes déchiquetées. Une crête presque imperceptible, une surélévation du sol, permettait d'apercevoir nettement ce que complotait l'adversaire. Un boyau peu profond conduisait au poste occupé par 3 hommes, relevé le soir par une équipe de même force. Quand nous prîmes possession du secteur, il était assez calme, mais un beau jour, une explosion formidable troubla tous les échos. Le Boche nous gratifiait d'une torpille et, en ennemi aussi entêté que méthodique, il ne s'arrêta plus. Chaque jour, un coin du secteur était crapouilloté. Les engins que nous recevions ne ressemblaient pas à ces horribles torpilles auxquelles aucun abri ne résiste. Tantôt, c'était de grosses toupies de 80 kg, tantôt des seaux à charbon, énormes cylindres bourrés d'explosifs qui entraînaient une mèche allumée. Ces derniers procuraient des émotions variées. Si la mèche, trop courte, atteignait l'explosif avant que l'engin eût touché le sol, une déflagration aérienne immense et peu dangereuse se produisait. Plus longue, la mèche brûlait un instant sur le sol avant d'éclater, donnant un moment d'angoisse très désagréable à celui qui se flanquait par terre pour éviter les éclats. Avec un abri souterrain bien conditionné, ce torpillage n'eût pas été très dangereux. Mais dans le secteur, aucune cagnade n'était à l'épreuve du 105. Aussi, quand l'arrosage commençait, les hommes sortaient et guettaient les envois de l'ennemi. On voyait la torpille jaillir de la ligne allemande comme un oiseau qui s'envole, monter dans le ciel et redescendre en culbutant. Sans perdre une minute, les poilus s'écartaient des points de chute présumés. Cet exercice les amusait. Ils riaient en jouant à cache-cache avec la mort. Ils avaient acquis un certain entraînement et les accidents étaient rares. Parfois, le Bosch accompagnait ses gros Minen d'un arrosage de 88 ou de 105. Alors la situation s'aggravait, les éclats d'obus allant plus loin que les débris de tôle des crapouillots. De plus, les obus de ces calibres arrivent trop vite pour qu'on ait le temps de se garer. Ces maudits Minen partaient, en apparence du moins, d'un point désigné sur le canevas de tir par la lettre grecque « Oméga ». Nous envoyions un copieux arrosage au point présumé où se trouvaient les Menenwerfer, mais peine perdue, le bombardement continuait. Un vendredi, vers 2 heures, le petit poste fut pris comme objectif par les Allemands. Pressentant un malheur, je me dirigeai aussitôt de ce côté avec un caporal brancardier. Une torpille avait atteint en plein le faible abri où 4 hommes demeuraient ensevelis. Le spectacle était lamentable, des coins de boyaux effondrés, obstrués par des débris, et la tranchée si bien détruite par endroits que nous dûmes passer à 4 pattes pour échapper au regard de l'ennemi. Chose admirable, tous les hommes, malgré le danger, se tenaient autour du débouché du boyau qui conduisait au petit poste, attendant fiévreusement le dégagement de leurs camarades. On leur répétait de se garer, mais ne pouvant agir, ils voulaient voir. 5 ou 6 hommes, à plat ventre, le sol nivelé ne permettait que de ramper, parvinrent à l'éboulement et creusèrent comme des taupes avec les mains, car les outils eussent été trop encombrants et trop visibles. 3 hommes furent retirés, blessés, mais le 4e, le sergent Nuit, était mort, la colonne vertébrale brisée. Et voici l'héroïsme ignoré de ce brave cœur. Normalement, le petit poste se composait seulement d'un caporal et de 2 hommes, mais l'ordre était formel. Ne se replier sous aucun prétexte, l'ennemi en bombardant essayait de chasser les guetteurs pour attaquer ensuite sans être signalé. Nuit partait en permission. Il venait de prendre sa feuille chez le capitaine et s'apprêtait à boucler son sac. Rien ne l'obligeait à rejoindre les hommes du poste qui n'appartenaient pas à sa compagnie. Rien ? Je me trompe, car ce soldat, en voyant le bombardement, pensa que sa présence soutiendrait le moral des 3 hommes. Il se dit qu'un gradé, en partageant le danger, les aiderait à tenir. Et bien qu'il touchât au bienheureux moment du départ, ce moment qui le dédommageait des 4 mois de souffrance, de fatigue, d'angoisse, de solitude, il eut une seule idée, partager le sort de ses 3 camarades, aider à les maintenir jusqu'au bout dans le devoir. Il s'engagea en courant dans le boyau. La mort capricieuse l'a choisi seule. Nous l'avons enterré dans le cimetière de Saint-Médard, au milieu duquel une statue de la Vierge étend ses 2 bras accueillants. Destinée à la chapelle des jeunes clercs, elle bénit aujourd'hui la tombe des poilus. Il y a peu de jours, j'assistais à la scène suivante, si caractéristique que je vous l'envoie, ma chère mère, afin que vous compreniez l'esprit de nos hommes et ne cédiez pas au pessimisme en écoutant le récit de cas isolés, exploité par les tristes tendances de gens qui ne se battent pas. Il s'agit d'un téléphoniste, véritable gamin de Paris. « Et puis zut, disait-il, j'en ai plus que plein le dos de ce fourbi, plus que plein le dos. » Sa voix s'élève de plus en plus et son ton fourbourien s'accentue. « Et alors quoi? Voilà 4 nuits que je n'ai dormi, toujours sur les lignes, et faudrait encore que j'aille la corvée de soupe? Non, mais des fois. Ah, vous savez, la classe. On les aura? Oui, notre peau qu'on aura. Il peut me faire passer au conseil, cher Jean. J'irai pas. On en a assez à la fin. » Et les invectives continuent contre les gens qui se chauffent les pieds dans leur cagnat quand les autres se font casser la figure. Un officier allemand prisonnier, gardé par 2 territoriaux, attend le moment de subir un premier interrogatoire. Il écoute et sa lèvre se retrousse en un vague sourire. Mon téléphoniste, d'ailleurs, a certainement déclaré son soliloque en partie pour l'allemand. Un besoin de se montrer bien frondeur, voyou, indiscipliné devant cette image vivante de la discipline. L'Allemand est grand, bien découplé, très aristocratique d'allure. Officier de carrière, certainement. Dans le regard abaissé sur Poulet, qui continue ses vociférations, il y a du dédain, mais il y a de la joie. La voilà bien, cette armée française, l'anarchie l'envahit. Quel est le Feldgrau qui oserait tenir de tels propos à 2 pas d'officier et du sergent téléphoniste ? Poulet déblatère toujours en ciselant une petite douille de 37. Mais il s'adresse directement à l'officier. Et vous êtes content d'être prisonnier? Fini la guerre. L'intention de l'officier est d'abord de ne pas répondre. Ses traits se sont durcis, mais voulant sans doute donner une leçon aux Français. Oh non, je suis un soldat. Il parle assez correctement en scandant les mots. Poulet hausse les épaules et l'officier continue. Vous m'avez pris dans mon abri éboulé. Sans cela. Et ses yeux sont pleins de colère contenue. Une batterie de 75, plaquée contre les carrières, ouvre le feu. La réponse est immédiate. Une marmite entre nous et les artilleurs. Les deux territoriaux se jettent contre le remblai. L'officier se redresse sans bouger même la tête et jette un regard un peu méprisant sur ses gardiens. Une autre marmite est plus près. Les éclats, avec un bruit mat, viennent s'aplatir autour des hommes. Encore une autre plus courte au-dessus de la carrière. L'Allemand ne bouge pas. Il regarde le tir et murmure d'un ton de regret « Trop court ». La batterie de 75, en effet, tire de plus en plus avec des rafales pleines de fureur. De mon abri, je vois la scène et j'admire la crânerie de l'Allemand. Dans la guitoune voisine, le sergent téléphoniste grogne. Ça y est, le fil est coupé. C'est vrai, car au-dessus des carrières, le marmitage se précipite. L'ennemi croit tenir sous son feu la batterie de 75. Il s'acharne et ne réussit qu'à bouleverser le terrain 300 mètres trop court. Et les fils téléphoniques qui rampent dans les boyaux sont atteints. La carrière ne communique plus avec les lignes. L'officier a repris son attitude indifférente et hautaine. Les deux territoriaux se sont redressés et Poulet... Mais Poulet n'est plus là. Au cri désappointé du sergent, il est rentré dans la sape et 2 secondes après, il est ressorti, sa petite boîte sur le dos, sa pince à la main. « Où s'est-il coupé, sergent ?»« Mais, dame, là-haut, certainement, je ne sens plus de résistance. » Et le sergent tourne la manivelle de son téléphone mutilé. « Allons, j'y vais !» Et voilà Poulet sorti. Le sous-officier lui crie « Attention, petit, ça tape dur en ce moment !» Mais mon révolté de tout à l'heure, qui préférait passer au conseil que d'aller à la corvée de soupe, a un haussement d'épaule superbe. « Bah, on n'est pas des bleus !» Sans plus attendre, il part pour accomplir plus que son devoir. Qu'en a pensé le Boche ? Je l'ignore, mais nous, Français, ne nous trompons pas sur notre race. Dans le recul des années, en lisant ses souvenirs, on s'étonnera que des influences aient amené le doute dans d'excellents esprits. 28 juin 1916. Nos combattants ont des moments de paix relative dont ils jouissent extraordinairement. Un reflet de la vie d'autrefois les rend heureux. Une nature artiste comme celle de Jean ne laisse passer aucune douceur de la nature dont le charme le sort des horreurs de la guerre. Mais l'horreur les guette jusque dans le repos si bien gagné. Après Crouy, écrit Jean, après avoir évacué le coin de la rive gauche de l'Aisne, le secteur de Soissons redevint tranquille et les 2 meilleurs mois passés au front sont pour moi mars et avril. Je fus détaché avec une batterie de 95 à la côte 94, Faubourg de Reims à Soissons. Nos pièces étaient dans une fonderie où nous nous étions établis déjà au lendemain de Crouy, mais d'où le marmitage nous avait délogés. Le secteur calmé, nous nous réinstallâmes côte à côte avec une batterie de 75. Autour de la fonderie, une petite agglomération de maisons ouvrières, entourée de jardins minuscules, pleins de lilas et de roses. Le printemps, ses fleurs, qui reposaient l'esprit et les yeux, me semblaient appartenir au domaine du rêve. Et pourtant, leur beauté, leur parfum, me reportaient en arrière, dans la vie d'autrefois. Elles étaient le vrai. Je demeurais chez un ouvrier boiteux qui, moyennant 10 francs par mois, me louait une chambre. Pendant la nuit, de temps en temps, des obus tombaient dans le voisinage et la bicoque s'ébranlait. Mais pendant mon séjour, les Allemands n'atteignirent que des maisons vides. Sauf quelques obstinés, les habitants avaient fui. Mon hôte, petit bonhomme rageur, entrait dans des colères amusantes. « Allons, vous ne pouvez pas les flanquer dehors, ces bandits. Il faut y aller carrément à la baïonnette, passer l'aine, etc. » Puis il me racontait ses querelles avec ses voisins, car la mort, qui rôdait sans cesse autour d'eux, n'avait pas mis la concorde dans la cité ouvrière. Quelle étrangeté ! Elle me faisait méditer le mot de Dumas fils. Rien n'est humiliant comme de penser que le génie humain est limité et que la bêtise humaine est sans limite. J'avais pour client, en dehors de mon boiteux et de sa femme, douce et placide créature, un couple de 80 ans. Plus loin, dans une masure en planche, une famille maréchale. Père, mère, 5 ou 6 enfants. L'aîné avait 18 ans et le plus jeune 18 mois. Enfin, au passage à niveau, une garde-barrière et son mari. L'ennemi, Bénin, se bornait à envoyer, chaque jour et sans aucun dommage, quelques salves fusantes et percutantes. Le printemps était charmant. Les journées passaient vite, et bien que nous fussions tout près des lignes, 1500 mètres à vol d'oiseau, nous menions une existence agréable. Pour ma part, j'allais 3 fois par semaine en ville, à Soissons, qui, à 2 pas de l'ennemi, étalait des magasins bien montés. La bibliothèque municipale prêtait des livres. Un libraire en possédait une collection parfaitement bien assortie, et peu de villes de l'intérieur regorgeaient autant de pâtisseries, de vins et de liqueurs. La salle d'armes d'une caserne nous fournissait des épées, et dans la journée, nous tirions avec fureur les officiers du 16e et moi. Nous avions même organisé un match de rugby que nous terminâmes malgré quelques envois d'ébauche. Quand l'Italie entra dans notre alliance, on nous permit, pour fêter l'événement, un supplément de coups de canon. Parfois, nous avions une petite démonstration, mais tout à fait en amateur. Un jour, une pièce de 75, rouffetrée, fut envoyée à 400 mètres de l'ennemi et arrosa de 50 coups un nid de mitrailleuse. L'infanterie fit un coup de main et ramena un prisonnier. Tout cela n'était pas méchant, et malgré les obus, nous passions des jours tranquilles, dont le souvenir me serait complètement agréable sans l'incident suivant. Je venais d'être nommé lieutenant, et envoyé au 89e, j'allais quitter la batterie vers 3 heures de l'après-midi, lorsque nos bus arriva très vite. Je ne prêtais aucune attention à cette démonstration quotidienne et inoffensive, lorsqu'un soldat arriva en courant. « La petite maréchale est hachée. Venez vite, docteur !» J'envoyai le brancard avec mission de m'apporter la blessée et préparer mes instruments. Mais au bout de quelques minutes, voyant que personne ne venait, je fis un paquet d'outils de pansement et j'allai voir. Le bombardement continuait au compte-gouttes, un obus par minute, un shrapnel et un percutant. L'ennuyeux, c'est qu'étant donné la proximité des lignes, les projectiles arrivaient si vite qu'on n'avait pas le temps de se garer. Je traversai la voie du chemin de fer et arrivai à la cabane en planche des maréchals. Le père, affolé, avait transporté sa fille chez lui, sans réfléchir qu'au poste de secours, elle eût été plus en dehors du tir. Mes 2 brancardiers venaient de la déposer sur un grabat. C'était une enfant de 12 ans. La veille, pour me remercier des soins donnés à sa famille, la pauvre petite m'avait apporté 3 artichauts dans un bouquet de fleurs. Une balle de shrapnel lui avait fracassé le crâne pendant qu'elle bavardait avec la garde-barrière et quelques artilleurs. Un grand trou laissait couler un paquet de cervelle en bouillie rosée. Rien à faire qu'entourer d'un pansement blanc cette tête sanglante. J'avais vu bien des scènes plus horribles, cependant celle-là me causait l'impression la plus douloureuse. L'enfance, victime de cette guerre, a le don de m'émouvoir singulièrement. Elle râlait, les yeux révulsés. Le père jurait, la mère sanglotait, les petits, effrayés par la vue du sang, voulaient fuir malgré les obus qui continuaient à tomber dans la même cadence. J'en rattrapai un qui trottait déjà sur la route. Nous étions, mes 2 infirmiers et moi, dans une situation fort désagréable. Nous ne pouvions abandonner la blessée, bien que notre présence fût inutile et nos soins absolument superflus. La cabane, en plein dans l'axe du tir, pouvait recevoir un projectile d'un instant à l'autre. Avec mes responsabilités, une demi-heure me parut terriblement longue. Enfin, le bombardement se calma. Un obus seulement de loin en loin. Nous courûmes chercher une voiture, un matelas, et l'enfant fut transporté à l'hôpital de Soissons, où elle mourut en arrivant. La sensation d'inutilité dans le danger est un des mauvais côtés de notre situation pendant la guerre, à côté d'ailleurs de multiples avantages. Les combattants ont la griserie de la lutte, la distraction de la tâche à accomplir. Nous, quand les blessés manquent au poste de secours, nous avons, sous le bombardement, des tendances à dire « À quoi bon être là? Nous ne servons à rien. La plupart du temps, un habile infirmier en ferait autant que nous. » Mais, en réfléchissant, nous comprenons l'utilité de notre présence à la tranchée, près des hommes. Nous sommes surtout en réconfort moral. Le blessé est rassuré par notre présence, beaucoup plus qu'amélioré par nos soins. Souvent, j'ai été bien dédommagé de ma promenade sous le feu par la joie de malheureux qui, bien à tort, voyait en moi le sauveur. Je me rappellerai toujours un gros coup de malchance arrivé au cours d'une attaque à l'une de nos batteries. Un avion Bolche de bombardement l'aperçut en plein tir. Il descendit très bas, lâcha 10 bombes et atteignit 25 artilleurs. L'horrible boucherie. Dans la nuit, au milieu d'une épouvantable odeur de poudre et de sang, des formes se tordaient sur le sol. Impossible d'allumer une lampe, les avions ennemis rôdaient sur nous. Nous aurions fait massacrer le reste de nos pauvres malheureux. Nous les avons ramenés à tâtons et accompagnés jusqu'à la première cave des postes de brancardiers divisionnaires. Dans le trajet, j'allais d'un brancard à l'autre. Un pauvre garçon avait le ventre ouvert, les entrailles à demi sorties. Nous lui avions, au petit bonheur, serré un grand pansement afin de boucher un peu l'horrible plaie, et je lui dis « Ce n'est rien, mon vieux, tu t'en tireras sûrement. »« Mais j'ai les boyaux dehors, monsieur le major. » « Qu'est-ce que ça fait? On t'opérera, voilà tout. »« Alors, vous croyez ?»« Mais bien sûr, les chirurgiens ne sont pas des ânes. » Je parlais d'un ton péremptoire, et quand je m'éloignais, il disait à ses porteurs « C'est vrai tout de même, moi qui me croyais fichu. » Il mourut en arrivant à R, mais il avait eu la bonne espérance. Avec la morphine, nous endormons le physique, avec de bonnes paroles, nous calmons le moral. C'est toujours cela. Mais pour nous-mêmes, ce calmant est impossible. Je revois un médecin de chasseur à 3 gallons qu'on nous apporta avec une balle dans le ventre. Il ne desserrait pas les dents, et comme je m'approchais instinctivement pour lui dire quelques paroles d'espoir, il me cria, en termes beaucoup plus crus que je ne les transcris, « Fiche-moi la paix et fais-moi une piqûre, ça vaudra mieux que de me raconter des sornettes. » Ces récits, simples et vivants, je les garde pour moi. Ils donnent une idée si exacte des dangers courus qu'ils ne doivent pas tomber sous les yeux de ma mère. Pauvres gens, je voudrais être auprès d'eux. Souvent, ils meurent indifférents à la clarté qui les accueillera dans l'au-delà. Ce serait doux de leur soulever un coin du voile.